France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Après 18 ans de règne, Serge Dorny quittera à l'automne prochain l'Opéra National de Lyon pour partir à Munich, à sa place, celui qui, pendant 10 ans, a dirigé la Comédie de Valence, l'acteur, metteur en scène de théâtre et d'opéra, Richard Brunel. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique.
Merci.
C'est sur France Musique que vous allez ce matin nous présenter en avant-première la nouvelle saison de l'Opéra de Lyon qui démarrera en septembre, mais d'abord, Emmanuel Macron a présenté la semaine dernière le calendrier de réouverture des lieux culturels avec plusieurs étapes. Richard Brunel, même si vous n'êtes pas encore aux manettes, seul aux manettes, quand le public va-t-il pouvoir revenir à l'Opéra de Lyon ?
Eh bien, on espère pouvoir ouvrir dès le 20. Mais avec la première du Coq d'Or, mis en scène par Barikowski et dirigé par Daniele Rustioni. Voilà, je crois que les équipes sont en train de travailler là sur une jauge à 35%, et on espère vraiment pouvoir réouvrir. Enfin, c'est vraiment notre souhait, et on essaie que toutes les conditions le soient pour le moment. On est encore en attente, évidemment, de confirmation de tout cela. Dès qu'on pourra ouvrir, on ouvrira. Ça, je sais que Serge a été extraordinaire avec toutes les équipes de l'Opéra. Pendant toutes ces périodes de confinement, la maison a continué à travailler de manière intense, hein, avec Béatrice et Bénédicte de Berlioz. Il y a eu tout le festival, le Château de Barbe Bleue, Ariane et Barbe Bleue. Moi-même, j'ai mis en scène Mélisande, d'après Pélias et Mélisande de Maeterlinck et de Bussy. Donc la maison, et il y a eu le Rossignol aussi, qui malheureusement n'a pas pu être joué ni au Châtelet ni à Lyon. Donc en fait, la maison a vraiment continué à créer, à produire. Et c'est vrai que, en tant que nouveau directeur, j'ai une certaine responsabilité à l'égard de toutes ces productions qui ont été répétées, parce qu'effectivement, il y a un engagement à l'égard des équipes de l'opéra qui ont travaillé, aussi bien les artistes que les techniciens, effectivement, que tout le personnel administratif, mais aussi à l'égard du public qui avait envie de découvrir ses œuvres et que je vais essayer de reporter dans certaines saisons. Et puis aussi vis-à-vis de l'argent public, parce que voilà, tout ça coûte de l'argent et qu'il faut absolument, on peut pas, comme dans certains pays, du jour au lendemain, eh bien, il y a certaines productions avec le confinement, le Covid, hop, elles sont mises au rebut, quoi. Voilà. Donc ça n'est pas possible. Je n'ai pas souhaité ça. J'assume vraiment cette continuité et cette responsabilité.
Donc ces spectacles ne sont pas sacrifiés, ces spectacles annulés, on va les retrouver dans cette saison prochaine dont on va parler dans quelques instants et peut-être même les saisons encore d'après. Le Coq d'Or, donc, normalement, à partir du 20 mai, alors 35%, c'est pas beaucoup, mais tout le monde pourra entendre le Coq d'Or ou ça sur France Musique. Nos micros sont régulièrement dans votre opéra, Richard Brunel, comme ici, il y a 2 ans, dans un opéra rare de Tchaïkovski, L'Enchanteresse. Thank you. extrait de la danse des bouffons de l'enchanteresse de Tchaïkovski, l'orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par Daniele Rustioni. C'était en 2019, un opéra qui est d'ailleurs toujours disponible à la réécoute sur francemusique.fr. Autre opéra russe beaucoup plus connu, Le Coq d'Or. Ce sera donc, vous nous l'avez dit, à partir du 20 mai, si tout va bien, à l'Opéra de Lyon, et le 26 juin sur France Musique. Avant de présenter les grandes lignes de la programmation 2021-2022, Richard Bonnel, des opéras rares, comme celui-ci par exemple, ça fait partie de votre projet pour votre mandat, comme on dit?
Oui, absolument. Je pense que à partir de cette saison, d'ailleurs, avec Irolo de Franz Schrecker, et puis dans les autres saisons, un des aspects du projet, ça sera de faire découvrir des œuvres qui ne sont pas forcément jouées en France, d'une part, de favoriser aussi la création contemporaine, et puis évidemment de toujours jouer le répertoire, et d'ouvrir aussi les thématiques des opéras, enfin je veux dire de la création, notamment avec des livrets originaux. J'ai très envie, et je trouve que pour élargir le public, il faut s'intéresser au polar, à la littérature d'anticipation, aux scénarios de séries, de films, à inviter des autrices et des auteurs d'aujourd'hui à écrire pour l'opéra.
C'est ça qui fait que l'Opéra de Lyon est l'opéra qui a la moyenne d'âge la plus jeune d'Europe. J'ai lu ça. C'était quoi la recette du succès de Serge Dorny?
Je pense que Serge a eu une très belle idée en ouvrant au maximum cette maison avec d'une part le ballet, évidemment, avec les productions lyriques, mais aussi avec cette section qui s'appelle Opéra Underground, puisqu'il a lancé vraiment avec le péristyle, enfin toute une ouverture de la maison, et puis le développement culturel. Enfin, il a vraiment fait énormément de choses. Aujourd'hui, l'Opéra de Lyon, 29% du public a moins de 26 ans. Ce qui est absolument extraordinaire. Moi, j'ai bien l'intention de continuer de poursuivre ce travail-là, comme je l'ai fait à Valence, puisqu'on avait aussi beaucoup de jeunes. Alors, des jeunes, ça ne veut pas forcément dire des scolaires. Hein. Ça veut dire c'est développer finalement l'idée que on peut aller à l'opéra. C'est fait pour nous d'ouvrir. Et puis, je vais développer aussi, par exemple, l'idée d'un opéra itinérant. D'un opéra, de petites formes d'opéra qui vont pouvoir aller là où l'opéra ne va pas. Et donc, d'une manière...
Donc partout dans la métropole.
Voilà, métropole, même la région, région Auvergne-Rhône-Alpes, de manière à aller dans des communes rurales, par exemple, aussi, dans certains quartiers de la ville, de manière aussi à aller à la rencontre de publics qui peuvent se sentir éloignés de l'opéra et avec des créations d'aujourd'hui. De manière à, si vous voulez, c'est aller plus loin pour être plus proche, quoi. Et de faire des allers-retours entre la maison, l'institution et, évidemment, le territoire sur lequel les artistes, hein, l'orchestre, le chœur, la maîtrise aussi proposent un certain nombre de concerts, d'actions culturelles. Au fond, c'est un opéra citoyen, un opéra qui est proche du public.
Vous avez parlé d'opéra underground, Richard Bonnel, qu'est-ce que c'est? Ça se passe dans les sous-sols, dans les caves?
Il y a l'amphithéâtre à l'opéra, c'est une programmation que fait Richard Robert et de temps en temps, il fait aussi une programmation dans la grande salle. C'est vraiment une programmation emblématique de l'ouverture, de la diversité des musiques. C'est une sorte de lieu dans lequel tous les artistes, comment dirais-je, les artistes qui ne rentrent pas dans les cases, eh ben, peuvent jouer à Opéra Underground. C'est le lieu des exceptions qui défient les règles. Par exemple, avec Bertrand Belin, avec Mélissa Lavaux, avec il y a une résidence de Pierce Faccini. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un programme très ouvert et très éclectique, mais en même temps qu'il y a une réelle cohérence et qui brasse beaucoup de publics assez différents du public lyrique et on espère avec le ballet aussi que tous ces publics à un moment donné se mêlent et la curiosité de découvrir ce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient désirer.
Vous avez cité Franz Schrecker, Irolo, donc qui est une des productions que vous nous annoncez la saison prochaine. Ce sera dans le cadre du festival, c'est ça? Ça continue. C'est pourquoi un festival dans un opéra?
Parce que c'est un temps fort pour toute une maison et pour la ville tout simplement. Ça permet d'abord, de faire résonner des œuvres, de créer une dramaturgie qui permet, notamment là avec le festival 22, autour de la question du secret de famille, de la civilisation dans laquelle on est aujourd'hui, qui peut être une civilisation, de la transparence, de l'aveu, une civilisation dans laquelle tous les hommes désirent naturellement savoir, comme dit d'Aristote. Et je dirais que de pouvoir monter Rigoletto d'un côté, qui cache sa fille, qui tient au secret sa fille, et puis à côté Irolo, qui est absolument inconnu, ça peut permettre des passerelles, et puis de demander à Katie Mitchell de faire revivre sa production qu'elle a écrite, qu'elle a travaillé avec Raphaël Pichon à l'époque, hein, puisque c'est lui qui avait fait la direction d'orchestre, Trauernacht, Nuit funèbre autour de cette famille qui, avec ses cantates de Bach, révèle des secrets familiaux autour de la mort du père. Ça permet au fond de faire entendre que l'opéra est en prise avec son temps, avec son époque, et que la question du secret de famille aujourd'hui a une place dans nos histoires et dans notre actualité.
Donc Verdi, Rigoletto, Irolo de Schrecker et ce spectacle Bach Nuit funèbre Trauernacht pour le Festival Opéra. Mais vous avez choisi, Richard Brunel, ce matin un autre Verdi, c'est Falstaff. Pourquoi ?
Parce qu'on va ouvrir la saison avec le Falstaff de Verdi, qui dirigera Daniele Rustioni et que mettra en scène Barikowski. Ce sera d'ailleurs
une nouvelle production de Barikowski pour ouvrir la saison à l'Opéra de Lyon.
Absolument. Et puis qui sera créé aussi au Festival d'Aix. Hein. C'est qui jouera au Komischhopper de Berlin et au Bolshoï de Moscou et à Naples, au Théâtre San Carlo. Voilà. Donc. En avant pour la farce, alors.
Rendez-vous en octobre pour ce Falstaff et en avant, en effet, pour la farce. Et là, tout le monde est réveillé à 8h44 sur France Musique. Le final de Falstaff de Verdi. On a entendu la voix de Jean-Philippe Lafont, toute la distribution et l'orchestre révolutionnaire et romantique, dirigé par quelqu'un qui a bien connu l'Opéra de Lyon. C'est John Elliott Gardiner, notre invité jusqu'à 9h, et Richard Bonnel. Il nous dévoile petit à petit des éléments de la prochaine programmation 2021-2022. Une programmation conçue par Serge Dorny. Comment ça s'est passé entre vous deux? Comment ça se passe d'ailleurs?
Si vous voulez, ça se passe bien parce que Serge a une vraie responsabilité et à mon égard en tout cas, une transmission qui se passe dans une très très bonne atmosphère. Et cette saison 21-22 est faite de reports. C'est en ça que, par exemple, une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est Chirine de Thierry Esquech, que je vais mettre en scène, que je devais mettre en scène en 2020 et qu'on reporte là en 2022. Et donc, il y a effectivement dans cette saison 4 spectacles qui étaient des spectacles programmés originellement par Serge. Donc, c'est une saison, disons, de transition, de passage de relais entre nous. Et il m'a aussi, et ça je l'en remercie, associé au recrutement et aussi au renouvellement des postes de direction de l'opéra, puisque Jochen Breiholz du Théâtre Ander Wien est venu nous rejoindre pour toute la partie production lyrique. Véronique Barros est venue nous rejoindre pour l'orchestre. Il y a aussi Richard Robert pour l'opéra underground, Julie Guibert qui est la nouvelle directrice du ballet. Donc il y a un collectif comme ça de direction qui est nouveau à l'opéra, et Serge a vraiment facilité cette possibilité-là et vraiment m'a associé à tous ces changements et à préparer l'avenir.
Cette création de Thierry Esquech, elle était déjà prévue. Il y aura également Zilan ne chantera plus. Qu'est-ce que c'est ?
Ça, c'est un opéra petit format, 50 minutes, écrit par Diana Saul. C'est l'opéra itinérant dont je parlais tout à l'heure. Diana Saul, qui est cette jeune compositrice, et le livret de Jan Verburg sur un sujet qui est l'homophobie. Ça nous tenait à cœur de créer un spectacle tout public qui puisse sillonner. Voilà, c'est trois instrumentistes, un chanteur et une tournée itinérante, voilà, au plus près des habitants dont l'opéra est peut-être éloigné.
Que vous mettrez en scène également.
Oui.
Vous ferez une mise en scène par saison, c'était dans votre projet. Est-ce qu'on peut faire en même temps les deux, être directeur de l'Opéra de Lyon, et vous allez me dire que ça se fait dans les centres nationaux dramatiques.
Ça se fait surtout dans d'autres opéras d'Europe, Jean-Baptiste. Ça se fait, par exemple, Barikowski dirige le Komischoper de Berlin, Benedikt von Peter dirige l'Opéra de Bâle. Je pense que, ce modèle d'un artiste à la direction, d'ailleurs, Lou Herlot était directeur de l'Opéra de Lyon et était aussi metteur en scène. Je crois que pour l'avoir fait pendant 10 ans, on peut absolument faire les deux, parce qu'au fond, on est très proche des équipes, puisqu'on est au plateau, donc on est avec toute l'équipe technique, on est vraiment dans la maison, et on voit bien le fonctionnement d'une maison de l'intérieur, quand on est metteur en scène. Et je pense qu'en tant qu'artiste, il y a une certaine sensibilité, un certain regard sur le monde, qu'on peut partager, qui est différent d'un intendant. Je m'attacherai à être metteur en scène à l'Opéra de Lyon. Il y a encore une ou deux productions que je dois faire à l'extérieur qui étaient prévues bien avant ma nomination, mais je serai avant tout l'artiste directeur de l'Opéra de Lyon.
Richard Brunel, à votre nomination il y a près de 2 ans, maintenant 1 an et demi, certains étaient surpris, vous étiez un peu l'outsider, vous-même aviez confessé dans Le Monde, je crois, une certaine peur. Aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours en tête, comment dire, un souci ou un complexe de légitimité, capitaine d'un paquebot, d'un budget de 38 millions d'euros, quand justement en France, maintenant, on ne voit que des gens qui ont plutôt des profils d'administrateurs ou administratifs?
Alors, d'abord, j'ai une expérience de direction de théâtre pendant 10 ans, et je dois dire que quand je suis arrivé à la Comédie de Valence, il y avait un déficit et que nous avons, avec toute l'équipe, relevé. Donc, en termes de management et de gestion, voilà, le programme a été salué. Et puis, les révélations des talents qu'on a pu faire à Valence aussi. C'est vrai que les gens ont été surpris. Moi-même, j'ai dit que j'avais peur, mais j'ai dit que j'avais peur comme un acteur qui entre en scène. C'est-à-dire, on a peur avant d'entrer en scène. Et à partir du moment où on est en scène, on n'a plus peur. Et Et puis je vous dirais juste ce que dit le pape, n'ayez pas peur. En fait, c'est surtout les autres qui ont peur, plus que soi-même. Non, mais disons que au fond, c'est vrai que c'est un enjeu formidable, c'est un défi passionnant, c'est un honneur de succéder à Serge Dorni, hein, faut vraiment dire les choses. Voilà, je le ferai avec toute mon énergie et j'en ai beaucoup. Après que les gens soient surpris, Serge me rappelle toujours que à sa nomination, il y a carrément eu des pétitions dans les journaux, hein, contre sa nomination. Et 18 ans plus tard, tout le monde a oublié. Mais c'est vrai que au fond, ce qui m'importe, c'est cette institution. Je n'aurais pas été candidat ailleurs, en fait. C'est vraiment Lyon, c'est vraiment cette maison, c'est vraiment ce qu'elle incarne dans l'audace et l'innovation qui m'intéresse.
Verdi au programme, on a parlé de Bach, il y aura aussi ce Piazzolla, Maria de Buenos Aires qui sera également aux Nuits de Fourvière en juin, et puis de la comédie musicale de Pajama Game.
Oui, ça c'est une fidélité entre Serge Dorni et Jean-La Cornerie, et ça m'a semblé très important de poursuivre cette chose, ce lien là qui était tissé entre le théâtre de la Croix-Rousse et l'Opéra de Lyon, et puis d'autres comédies musicales peut-être dans les années à venir aussi. Ça c'est une chose qui m'importe.
Comment vous faites d'ailleurs pour réinventer d'habitude les maisons d'opéra se projettent 3-4 ans à l'avance là avec la pandémie. Comment ça se passe?
Eh bien, il y a un embouteillage de certaines productions, mais aussi on arrive à trouver des espaces pour des projets, puis des beaux projets dont je peux pas vous parler aujourd'hui, mais avec de grands metteurs en scène. L'idée, c'est aussi de continuer à ce que de grands noms de la scène internationale viennent à l'Opéra de Lyon, et également de faire une place à la nouvelle génération. Il y a dans les opéras internationaux à peu près toujours les 15 mêmes metteurs en scène qu'on adore, qu'on trouve formidables, mais aujourd'hui, il est question de passer aussi le relais à cette nouvelle génération et aussi à des nouvelles chefs d'orchestre, hein, à des metteuses en scène, à des librettistes, à des compositrices. Voilà, je vais essayer d'ouvrir au maximum des prochaines saisons. Notamment, là, je rebondis sur une chef d'orchestre que j'affectionne, qui est Elena Schwartz, qui va diriger un Peergunt de Grieg. C'est une chef d'orchestre que j'ai rencontrée au Festival d'Aix, d'ailleurs, qui a été l'assistante de Kazushi Ono et qui dirige en Allemagne, aux États-Unis.
Ici à Radio France aussi.
Voilà. Et je sais que oui, d'ailleurs, j'ai entendu, il y avait eu un entretien de Judith Chen, d'ailleurs, avec Elena Schwartz. Donc Elena va venir, voilà. Donc ça, c'est aussi la nouvelle génération, avec beaucoup de talent, beaucoup de densité, d'intensité, que je souhaite aussi promouvoir à l'Opéra de Lyon.
Ça sera dans plus d'un an, en juin 2022, Peergunt de Grieg. Tiens, une metteuse en scène, Deborah Warner, ça c'est à Noël, un messie mis en scène.
Absolument. Handel. Alors ça c'est une reprise, c'est une production de 2012, que dirigera d'ailleurs Stefano Montanari, vraiment, et qui rassemble à la fois, évidemment c'est une grande partie pour le chœur d'une part, il y a Alan Clayton comme le ténor là, qui est formidable, qui jouera dans ce spectacle. C'est un messie extrêmement humain, extrêmement sensible, c'est un messie qui fait de cette œuvre vraiment notre contemporain. Voilà, et Deborah Warner est une très très grande metteuse en scène, je suis absolument ravi de reprendre cette production et peut-être d'imaginer d'autres productions avec elle dans l'avenir.
Richard Brunel, on en a beaucoup parlé sur France Musique il y a quelques semaines, la mairie, l'adjointe à la culture Nathalie Perrin-Gilbert a annoncé une baisse de subvention accordée par la ville de Lyon à l'opéra, une baisse de 500 000 euros. Je vous pose la question, comment vous avez accueilli cette annonce?
Comment on peut accueillir une baisse de subvention? Absolument mal, vraiment. J'étais. En fait, c'est surtout, si vous voulez, comme tous les membres de l'équipe d'ailleurs de l'Opéra de Lyon, j'ai reçu cette. J'ai été très surpris de cette méthode, c'est-à-dire au fond d'une suppression de 500 000 euros en plein exercice. Voilà. Maintenant, il nous appartiendra de discuter avec la ville.
Vous n'avez pas discuté depuis?
On s'est vu, mais on va poursuivre les discussions, disons. Si on s'est vu, de voir comment on va répercuter de manière concrète. Et ça aura un impact sur le projet que je vais conduire, c'est sûr. La question, c'est, on va ensemble, parce que je pense qu'il faut associer les élus à cette démarche-là. Il faut que nos légèretés ont trop souvent des conséquences, disait Ibsen. Et je dois dire que à cet endroit-là, j'espère que on trouvera des solutions pour pouvoir continuer et rester, et pour que cette maison reste absolument une des plus inventives d'Europe.
Vous avez été nommé avant l'arrivée du maire écologiste Grégory Doucet. Il y a un an, quelles sont vos relations avec la ville ?
Alors là, moi, je l'ai rencontré une seule fois, justement, à la suite de cette baisse de subvention. Il m'a paru, d'abord, c'est quelqu'un qui va à l'opéra.
C'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, oui, tout à fait, puisque alors il a fallu juste lui rappeler une petite chose, parce qu'il m'a dit non, mais on a besoin de moyens pour la création, et je lui ai rappelé que l'opéra de Lyon était une maison de création. Tout est création, voilà. Il a d'ailleurs, il a salué une production qu'il était venu voir de Macbeth, mis en scène par Ivo Vanov. Donc, voilà, nos liens sont neufs et nous allons faire en sorte, de les tisser. J'espère que la ville restera absolument fière de cet équipement dans lequel elle met beaucoup d'argent.
On a dévoilé quelques-unes des productions lyriques de la saison prochaine. Il ne faut pas oublier, bien sûr, le ballet. Il ne faut pas oublier aussi toute la programmation avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon, Richard Bonnel.
Absolument. Alors, je vais faire rapidement. Avec le ballet, Julie Guibert va proposer un certain nombre d'entrées au répertoire, et notamment une, il faut absolument en parler, l'entrée au répertoire d'une pièce de Pina Bausch. C'est un événement pour l'Opéra de Lyon. La compagnie de Pina Bausch va faire une pièce qu'on va pouvoir jouer à l'Opéra, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle. Ça n'était jamais encore arrivé. Et puis, il y a la saison de concert avec Daniele Rustioni qui va diriger Tristan. Aussi un concert sur Shakespeare, Mendelssohn et Tchaïkovski. Le programme est absolument palpitant. J'ai pas assez de temps pour vous en parler.
Il sera à découvrir demain. Absolument. Il y a une partie à découvrir dès à présent sur le site de francemusique.fr. Et c'est donc pour ça que vous avez choisi cette musique qu'on entend, Le songe d'une nuit d'été de Mendelssohn. Publier les bancs, c'est le mariage entre.
Ben, c'est une histoire d'amour qui commence,
et l'Opéra de Lyon. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci
sur France
à vous.
Musique.
Merci beaucoup.
Voilà un Lyonnais de cœur, John Eliot Gardiner, à nouveau à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres, dans cette marche nuptiale du songe d'une nuit d'été de Mendelssohn, qu'on retrouvera avec Shakespeare très présent dans la programmation de la saison prochaine de l'Opéra de Lyon. Shakespeare, d'ailleurs, dont on célèbre aujourd'hui les 405 ans de la disparition, figurez-vous. Eh bien, demain, on célébrera les 200 ans, cette fois, de la mort de Napoléon Bonaparte, avec Arnaud Marzorati et ses Lunésiens. Et puis, quelqu'un de la région, d'ailleurs, Bruno Messina, qui sera également avec nous au générique ce matin. Jean-Frédéric Ciutou, Diego Aclopès, Marion Guillemet, Margot Muller, Lara Castiglione, Florian Henault et Yacine Bouzard. La réponse à notre jeu. On écoutait une sarabande interprétée, sarabande de Jean-Sébastien Bach interprétée par Gary Hoffman. Contrairement à Melinda et Bill Gates, eux sont toujours mariés. Voici Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier.
Bonjour Jean-Baptiste. Mais notre fortune, ouais, elle est égale.
C'est la fortune du cœur.
Voilà. Vous parliez de sarabande, et bien on va continuer de danser avec le dernier disque de Lise de la Salle, une petite avant-première pour ouvrir cette émission avec plein de danse.
Super, à demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.